Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Côme Guirschig, conférencier engagé pour l'écologie démocratique et sociale, pour parler du vaste sujet des nouveaux récits et de la manière dont les entreprises peuvent s'en emparer pour imaginer de nouvelles manières de raconter et de construire le monde. Bonne écoute! Salut Côme.
Hello Noémie.
Bienvenue dans The Storyline.
Merci.
Merci de me recevoir. On joue à domicile aujourd'hui, du coup je suis ravie.
Complètement à domicile, dans le gris, mais...
Mais dans de beaux fauteuils en velours rouge.
Exactement, c'est très bien. Je vais essayer de ne pas m'endormir. Ça devrait aller.
Je compte sur toi. Merci en tout cas pour ton accueil et d'accepter de nous partager un petit peu ton expérience et ton sujet de prédilection, les nouveaux récits, les nouveaux imaginaires. Est-ce que tu veux bien, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, nous parler un petit peu de toi, ton parcours, ton profil, ton expérience ?
Oui, alors je suis né à Levallois-Perret en vrai, enfin à Paris, et après je suis parti de Paris vers 8 mois, donc j'ai pas beaucoup connu Paris étant jeune. Je viens de Boulogne-sur-Mer, sinon j'ai fait toute mon enfance là-bas, mon lycée, etc. Donc la mer, les dunes, les grandes plages, etc. Mais aussi le nord, la pluie, le froid. Et après, j'ai poursuivi mes études à Lille, en prépa scientifique, puis à Paris, en école d'ingénieur, puis Sciences Po, etc. Mais en fait, la façon dont je vis ma vie professionnelle, etc. maintenant, est surtout déterminée par l'activisme que j'ai découvert en 2015, lors de la COP21, où il y avait vraiment une sorte d'ébullition à Paris, parce qu'on accueillait cette grande conférence mondiale, et en plus, on l'accueillait l'année où il était question d'adopter l'un des plus grands accords sur le climat, donc l'accord de Paris. Et je suis tombé là-dedans. C'était un peu ma marmite de potion magique à moi. J'ai trouvé tellement de choses différentes à comprendre, à découvrir d'un point de vue artistique, juridique, culturel, culinaire. En fait, ce qui est génial avec la question écolo, c'est qu'elle touche tous les sujets. Ça m'a donné un peu un angle de vie, un sens. Et après, j'ai commencé à tout faire un peu par rapport à ça. Je me suis lancé dans l'activisme assez rapidement, dans Climates, dans d'autres ONG après. Donc, l'idée étant d'aller surtout dans les négociations internationales pour voir ce qui se passait.
Ok.
Et au bout d'un moment, ça m'a amené assez loin, en fait, à New York et même à représenter la France un moment. Bon, c'est un peu pompeux, mais bon, ça a été...
Mais c'est pas mal, ouais.
C'est pas mal.
Et mais c'était juste... à travers, du coup, un engagement associatif.
Là, c'était en indépendant, en fait. Le secrétaire général des Nations Unies sélectionnait une personne par pays, enfin, avec un comité de sélection, sur la base de ce qu'on avait fait dans ce pays-là avant. Et comme moi, j'avais un parcours pas mal engagé, donc plein d'assauts différentes, j'avais fait des vidéos YouTube aussi pour débunker des propos climato-sceptiques, mais à un moment où c'était moins à la mode, c'était maintenant il y a...
Oh là la concurrence désormais. Il y a de la concurrence maintenant.
Ah ben non, il y a la fouille, ouais, il y a beaucoup de concurrence, mais c'était en 2015-16 que j'avais commencé à faire ça.
La préhistoire.
Et ouais, la préhistoire, ouais. Presque il y a 10 ans, quoi, ça fout le... Enfin bref. Voilà, de fil en aiguille, en fait, j'ai continué à m'investir et en essayant après de redescendre un peu plus au niveau national, local, en étant par exemple très mobilisé dans la Convention citoyenne pour le climat, que j'ai suivi de très près, en regardant les processus démocratiques. J'ai aussi lancé des procès sur la 5G, on pourra peut-être en reparler, c'est un gros sujet un peu lourd et parfois assez mal perçu, on voit pas trop le lien, et en fait le lien est assez évident pour moi. Donc tout un tas d'activités et progressivement, je suis devenu conférencier pour parler de tous ces sujets d'engagement.
Ok, donc aujourd'hui, tu es conférencier.
C'est ça.
Raconte-nous un petit peu ton activité, ton quotidien, ça ressemble à quoi ?
Alors mon quotidien, ça consiste à lire, écrire et parler essentiellement, ce qui sont des fonctions que j'ai apprises en maternelle, donc jusque-là, tout est... voilà. Et non mais très concrètement, c'est ça, je me rends beaucoup dans des entreprises, aussi dans des administrations publiques, parfois... devant le grand public en général ou dans le milieu de l'enseignement. Et je fais des conférences sur tout un tas de sujets, les nouveaux récits, la transition numérique, des aspects aussi un peu de sociologie et d'anthropologie autour de la question écologique. Enfin, en fait, j'écris régulièrement des nouvelles conférences qui ont toutes des parties communes. Enfin, voilà, c'est un peu un être vivant, une conférence, ça évolue au fur et à mesure.
Mmh.
Et à côté de ça, j'écris 2 livres en ce moment. 1 sur l'engagement, vraiment, avec un ami qui s'appelle Tanguy Descamps. Je ne sais pas si tu...
Ça me parle.
Il est très engagé aussi. Et un autre livre sur vraiment les nouveaux récits.
Ouais.
Sujet dont on va parler, donc je ne vais pas le dévoiler dès maintenant.
Ok, ça en fait un sacré paquet de choses. Et si je ne dis pas de bêtises, tu m'avais aussi mentionné un projet entrepreneurial.
Exactement. Et justement, aujourd'hui même, on se trouve dans les nouveaux bureaux de ce projet-là. Ça s'appelle Bien Barré. Donc c'est une entreprise que j'ai montée avec Stécie Algrin, qui est journaliste sur les questions de biodiversité. Et on va aider les entreprises très concrètement à faire de la redirection écologique, sachant qu'il y a des concepts qui changent tous les 2 ans à peu près. Avant, on parlait d'économie bleue, d'économie symbiotique, de développement durable. Il y a des nouveaux concepts comme ça tous les 2 ans en ce moment. C'est la folie autour de l'économie régénérative. Bon, donc on ne sait pas trop quel concept prendre, mais pour faire très simple, on veut faire du conseil en stratégie écologique auprès des entreprises. On fait partie de ceux qui pensent que certes, une grande partie des entreprises ou des activités, en tout cas, est vouée à disparaître. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de transition possible pour ces pans-là de l'économie.
Mm-hmm.
Mais que pour une autre grande partie de l'économie, elle devrait être conservée, mais sous une forme différente. Et on a envie d'accompagner cette transition-là. Donc, mettre un peu les mains dans
le cambouis.
La mécanique économique. Quoi, ouais.
Sacré programme.
Mais oui.
Et tu dors aussi, parfois ?
Oui, ah je bon. Dors mal en ce moment à cause d'un dégât des eaux. Mais voilà, ça, c'est la partie intime.
C'est simplement Paris, malheureusement. C'est voilà. Même pas les projets herculéens que tu mènes en ce moment. Ok, génial. Bah, y a plein de choses, plein de questions que j'ai envie de te poser. Mais du coup, la première, peut-être, c'est pour revenir sur cette posture de conférencier. C'est marrant, quand tu pitches, on a l'impression que ça vient naturellement et que, voilà, de fil en aiguille, tu trouves un peu ta voix, tu suis, tu tires le fil et puis ça, bah, tu te retrouves à donner des leçons, entre guillemets, à des publics, à des audiences, à des gens en entreprise. Mmh. J'imagine que c'est un peu plus complexe que ça. Est-ce que tu te destinais, entre guillemets, à aller vers le sujet des conférences ? Est-ce que pour toi, c'est... Tu le vois comme une profession, tu le vois comme un levier d'action. Et comment, en fait, t'as trouvé cette posture et cette légitimité à finalement te positionner et te vendre comme conférencier ?
Je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est un contexte qui a fait que la jeunesse était très écoutée dans les années 2015 jusqu'à 2018-2019.
Mmh.
Le Covid ayant cassé un peu cette dynamique, je pense... Il y avait un intérêt pour la parole de la jeunesse autour des questions d'écologie, les grandes manifestations, etc. Or, il se trouve que j'étais jeune et que je parlais d'écologie à ce moment-là. Donc, j'ai été assez rapidement identifié comme une personne capable de parler en public. Un autre point qui m'a aidé et qui a fait que, en fait, c'est quand même apparu comme une évidence pour moi, c'est qu'on m'a proposé, parce que j'ai été médiatisé, et on m'a proposé des conférences, donc j'ai accepté. Et j'ai, je pense, toujours aimé plutôt ça, parler en public. C'est pas, voilà, mine de rien, c'est quand même un point important. Mm-hmm. On peut pas être conférencier si on est mort de peur à chaque fois, ce qui serait le réflexe, je pense, le plus naturel. Mais il se trouve que j'ai eu cette naïveté de pas avoir peur. En tout cas, enfin, en général, il arrive d'avoir des moments de stress, mais, mais voilà, ça a été assez simple. Et l'autre point, c'est que il y a différentes façons de parler en public. Il y a des discours qui visent vraiment à affirmer une position dans une sorte de lutte. C'est-à-dire que souvent, c'est des discours publics, médiatiques notamment.
Mmh.
Moi, c'est un discours qui, dans le cadre des conférences, j'ai déjà fait de l'activisme où l'idée, c'était vraiment de porter un discours, disons, radical et assumé, notamment dans le cadre de la 5G. Dans mes conférences d'entreprise, le but du jeu pour moi, c'est de me faire écouter. Pas juste de me faire entendre, de me faire vraiment écouter, c'est-à-dire de provoquer l'adhésion à un récit dans lequel je crois. Et donc, pour faire ça, je suis prêt à tordre autant que possible la forme, la façon d'amener les choses, les exemples que je sélectionne pour être écouté, parce que je sais très bien qu'en général, voilà, quand je vais faire une conférence sur le renoncement dans une banque, je sais très bien que c'est pas trop dans le logiciel. Voilà.
Ouais.
Et pourtant, je fais tous les efforts, j'arrive avec un beau costume bien taillé comme il faut, j'emploie les mots qui vont bien, je leur montre que je connais un peu le vocabulaire de la banque parce qu'il se trouve que j'ai un passé d'ingénieur financier. je fais vraiment le maximum pour être écouté. En fait, ce travail-là, c'est l'essentiel du boulot de conférencier. Parce qu'après, l'expertise sur l'écologie, je pense comme beaucoup des jeunes de ma génération qui sont engagés dedans, elle coule un peu dans nos veines. On est tellement connectés avec les réseaux sociaux, on lit tellement de trucs autour de ça que ça ne demande pas un travail énorme, en fait.
C'est, ouais, je te pose ces questions, c'est pas anodin, c'est parce que je trouve qu'aujourd'hui, les médiums privilégiés de la jeunesse, entre guillemets, je nous considère encore appartenant à cette catégorie
dans quelques années.
même si en effet, on peut se prendre des petits coups de vieux en repensant à 2015, 2017. Mais ça va plus être les réseaux sociaux et des formats vidéo, des messages contrôlés, des mises en scène. Des storytelling qui sont assez finalement retravaillés en huis clos, etc. Et c'est pour ça que je trouve que le format conférence est assez intriguant, c'est un peu un ovni. Et on voit moins de jeunes qui font des conférences. Je pense que parce que d'une part, il y a cet enjeu, comme tu dis, qui est de se faire écouter, qui n'est pas simple. Et je serais vraiment preneuse de plein de conseils là-dessus après. Mais il y a aussi peut-être cet enjeu, et je reviens dessus, et je te considère comme expert et sachant, mais de légitimité et de réussite à positionner ta personne et tes prises de parole comme étant celle d'un expert reconnu dans son sujet, etc. Et quand tu te lances, quand t'es jeune et que t'as pas forcément des bouquins à ton actif ou un énorme réseau ou des accomplissements, ceci dit, tu avais ceux de ton engagement associatif, pas simple de se lancer.
C'est vrai, c'est pas simple de se lancer et ce serait malhonnête de ma part de dire que tout le monde peut le faire comme ça d'un claquement de doigts. Il y a vraiment, j'allais employer un mot un peu alambiqué, mais il y a vraiment un côté contingent. C'est des choses qui arrivent et c'est pas forcément calculé au départ. Il y a une part de hasard. Moi, j'ai eu ce côté médiatisation dès le départ qui m'a aidé.
Ouais.
Je suis beaucoup moins maintenant. Voilà, je serai peut-être encore plus tard. Enfin, c'est très variable de toute façon. Je pense aussi qu'il y a un aspect diplôme qui aide, mine de rien, notamment pour atteindre les milieux un peu... par culture assez conservateur, enfin le milieu de la banque, etc. Dire qu'on est ingénieur des ponts et chaussées, diplômé de Sciences Po Paris, les gens écoutent d'avant.
Blanche, ouais.
Voilà, c'est ça. Il y a une forme de côté institutionnel, en fait, dans les études que j'ai faites, qui permettent d'ouvrir certaines portes et certaines oreilles, ce que je trouve honnêtement un peu dommage, parce que je pense qu'on est à une époque où il y a besoin de plus de créativité, et, enfin bref, que d'institutions, mais... c'est peut-être encore un autre sujet. Mais donc voilà, la question de la légitimité, en tout cas, je me la pose. Je sais que j'ai eu un peu un boulevard avec ce côté jeune. Au bout d'un moment, ça, voilà, ça va plus. Mais après, du coup, j'ai eu du temps aussi pour commencer à développer de nouvelles idées, écrire, et ça donne de la légitimité. Mais c'est un combat du quotidien. Et tu évoquais les réseaux sociaux. Pour moi, c'est des choses qui vont ensemble. C'est-à-dire que en fait, très souvent pour les conférences, on se fait repérer par les réseaux sociaux. Alors ça dépend lesquels, évidemment, c'est pas sur TikTok, c'est plutôt sur LinkedIn. Mais ça marche un peu ensemble. Après, je t'avoue que je préfère mille fois les moments de partage sur, en conférence quoi, que sur LinkedIn. Où c'est assez grisant de voir des centaines, des milliers de likes ou autres. Mais en fait, on est tout seul derrière sa chaise. Et les conférences, en fait, il n'y a rien de plus... C'est comme un moment de théâtre, c'est un vrai moment de célébration, et j'ai eu des conférences absolument mémorables de ce point de vue-là.
C'est génial. Bah, tu vas peut-être pouvoir nous partager un peu quelques exemples, mais justement, pour toi, parce qu'il y a pas mal d'auditeurs et d'auditrices, qu'ils soient finalement salariés en entreprise ou indépendants, parfois sont amenés à prendre la parole, à organiser, alors du coup, pas forcément des conférences, mais des webinaires, des formations, des choses comme ça, ou prendre la parole tout simplement au nom de leur marque sur les réseaux ou en face d'une audience. Est-ce que pour toi, il y a des ingrédients d'une bonne prise de parole qui sont des choses que toi tu essayes d'appliquer ou que assez naturellement t'es allé décortiquer?
En conférence ou en ligne?
En conférence.
Donc en présentiel normalement, etc.
Mais qu'après peut-être, je ne me rends pas compte, peut-être qu'il y a des ponts à construire avec des performances en ligne, entre guillemets, des webinaires, des conférences. Ouais.
Les techniques sont très différentes, mais pour le présentiel en tout cas, il y a beaucoup de choses différentes. Mais je pense que la spontanéité, la sincérité en deux mots, ça se prépare. Et c'est paradoxal, je sais bien, mais pour être spontané sur scène, en fait, il faut avoir bien quadrillé le temps, l'espace aussi. C'est bien de repérer en amont où on va parler. Mais les tips, essentiellement, c'est pas très original, mais c'est maîtriser le sujet à fond pour pouvoir s'en débarrasser au maximum. et pouvoir s'intéresser à des choses ponctuelles qui apparaissent pendant le flux de la conférence, ça c'est ce qui marche le mieux.
Ouais.
Des réactions de la salle, des bruits qu'on entend, des idées un peu qui viennent comme ça sur le moment, c'est toujours les meilleures parce qu'elles viennent exactement dans le fil de pensée.
Mmh.
Les pires conférences pour moi sont celles, et j'en ai fait parce que j'ai été contraint parfois, notamment au TEDx, à vraiment avoir tout au millimètre prévu. Et en fait, c'est horrible parce qu'il n'y a aucun moyen d'être créatif sur le moment, quoi.
Okay.
Il y a zéro improvisation et ça, pour le coup, c'est vraiment... C'est nul, quoi. C'est pas un moment humain, c'est pas un moment...
C'est du par cœur. Donc, du coup, avoir un cadre pour pouvoir en sortir, finalement.
C'est ça. Souvent, moi, j'ai l'image d'une descente en slalom, en fait, en conférence. Il y a les points de passage obligatoires.
Mm-hmm.
Et entre ceux-là, l'idée, c'est de pas d'aller le plus vite possible. Donc, l'image est peut-être pas parfaite, mais l'idée, c'est juste de relier ces points et après, on fait ce qu'on veut, quoi.
Ouais. Non, mais c'est très parlant. Et du coup, ça te permet en effet... c'est comme les humoristes qui ont leur spectacle préparé, mais en fonction d'une réaction dans l'audience
Et justement, je pense que les humoristes ont une technique qui est absolument incroyable et qui est très transposable aux conférences. Et c'est pour ça que j'ai commencé le stand-up depuis quelques mois.
Ah, bravo.
Et en fait, avant tout, par intention de... Là, j'ai pas l'air fun comme ça, mais en vrai, je peux être drôle. avant tout, justement, pour... vraiment encore plus trouver le mot juste, parce que je pense qu'il n'y a pas d'écriture plus millimétrée et en même temps qui apparaît spontanée que le stand-up. Et je pense que c'est très utile à certains moments des conférences de savoir faire ça.
Et s'adapter, capter l'énergie en fait de toi. Ouais, ok, d'accord. Bon. Génial. Et bon courage.
Merci.
Tu nous diras quand tu fais des spectacles.
Ah ouais, j'en ai un bon. Ah oui, non, enfin, j'en ai tous les mois, mais c'est pas des spectacles, c'est des scènes ouvertes. Mais c'est déjà très dur à faire.
J'imagine. J'ai essayé, petite confidence, il y a quelques années, et j'ai pas duré très longtemps. J'avais du mal à lâcher prise.
Oui,
très difficile. D'ailleurs, le lâcher prise, c'est peut-être aussi une notion importante.
Pour moi, c'est un travail de tous les jours, enfin, en tout cas sur scène. Et j'ai eu un stage de stand-up et le prof, le premier truc qu'il m'a dit, c'est laisse ton cerveau vestir, parce que là, ça va pas le faire. Quoi.
Bon, en conférence, j'imagine qu'il faut quand même un petit peu ton cerveau pour sortir des trucs pas trop idiots.
Il le faut un peu.
Et tu disais que c'était très différent, les prises de parole en ligne. Pour toi, c'est quoi les éléments principaux et les grandes différences
Alors déjà, les conférences en ligne, il faut éviter. Il y a quelque chose qui m'échappe, mais j'ai jamais vu et j'ai jamais fait de conférence en ligne qui m'est paru enthousiasmante, inspirante, etc. Okay. Ou alors c'est des superstars à la Jean Covici et autres qui, pour moi, juste provoquent des réminiscences de ce qu'ils ont fait sur scène. Mais je trouve ça extrêmement dur de faire des prestations de qualité en ligne.
Mm-hmm.
Et après, il y a le contenu produit. Je ne suis pas un Instagrammeur, ni un TikToker, ni un YouTuber. Je pense qu'il y a des choses très bien qui se font. Mais ça demande une technique de montage, etc., très spécifique. C'est-à-dire que la personne qui parle ne fait pas du tout l'essentiel du travail. Donc ça, j'ai pas trop de conseils parce que je me considère vraiment pas comme expert.
Très bien. Ça peut aussi être de dire n'allez pas en ligne.
Vraiment, pour les conférences, effectivement, je conseille de pas aller en ligne. Après, je pense qu'on a besoin de producteurs de contenu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est utile.
Mais peut-être pas sur les mêmes messages ni sur les mêmes... forme de delivery, du coup.
Peut-être, ouais, peut-être.
Ok, mais justement, en parlant de messages et de fond, on a parlé un peu de la forme et de tes activités.
Ouais.
Et très curieuse après d'en savoir plus sur les livres. Mais un des sujets sur lesquels tu prends notamment la parole, c'est celui des nouveaux récits. Et c'est quelque chose qui intrigue pas mal les auditrices et les auditeurs et les gens qui suivent The Storyline, et moi aussi d'ailleurs. À titre perso, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est... un terme un peu tiroir ou parapluie qui englobe beaucoup de choses. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, les nouveaux récits, concrètement ?
Les nouveaux récits, c'est un nouvel angle pour concevoir et mettre en œuvre la transition écologique. Pendant un certain nombre d'années, voire même de décennies, on a juste dit on émet trop de CO2, il faut réduire le CO2. Les transports, ça émettant, le bâtiment, ça émettant, machin. On vise de réduire de temps, on va mettre des voitures électriques, on va isoler les bâtiments, etc. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ça ne va pas suffire du tout, parce que le climat, c'est une limite, il y en a 9. Et en fait, quand on commence à résoudre un problème, typiquement les voitures électriques, c'est bien d'un point de vue climatique. Il y a eu débat, mais maintenant, on sait que c'est bien pour les petites voitures. Mais d'un point de vue biodiversité, c'est pas ouf, d'un point de vue, etc., etc. En fait, le problème est tellement complexe qu'on réalise qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres alternatives que de rentrer dans une forme de sobriété auto-imposé, disons. Mmh. Alors, ce mot, maintenant, a été tellement utilisé qu'il est... on va probablement l'abandonner, parce qu'il a été usé, notamment par le gouvernement, avec les plans de sobriété, etc.
Absolument.
Néanmoins, il enferme quand même une réalité vers laquelle il faut aller, c'est bah, la décroissance, on pourrait dire pareil, mais il faut globalement réduire nos consommations d'un peu tout, il faut réduire le nombre de kilomètres parcourus, parce que peu importe l'énergie qu'on utilisera, que ce soit de l'électricité, l'hydrogène, peu importe si l'électricité vient de la fusion nucléaire ou autre, il y aura toujours un enjeu de matière et d'impact sur l'environnement à avoir une vie en mode 8K. Enfin, voilà, où il faut absolument avoir plein d'expériences simultanées, manger des trucs qui viennent du bout du monde. Bon. Et en fait, quand on voit ça, on se dit, oui, on peut avoir une approche comptable, ingénieur, en mode, on va voir chaque usage, comment on fait réduire chaque truc, mais et il faut le faire. Mais il y a aussi un enjeu à voir pourquoi est-ce qu'on a envie de faire tout ça.
Mmh.
Et comprendre que si on a envie de faire tout ça, c'est qu'il y a des constructions culturelles fortes qui ne sont pas des choses innées qu'on a toujours eues et qui ne sont pas forcément intrinsèques à la nature humaine, mais qui sont juste des productions, au sens premier du terme, à travers les séries, à travers la publicité, les films, et aussi plus largement à travers en fait, toutes les histoires qu'on se raconte, nous. Pourquoi est-ce qu'on s'imagine qu'une vie réussie, c'est avoir formé un couple, avoir deux enfants, un labrador et une maison en banlieue. Enfin, voilà, ce type de schéma. Alors, c'est peut-être pas le schéma de tout le monde, mais en tout cas... Il y a des schémas comme ça extrêmement ancrés qui sont ensuite relayés par... Je pense pas que les publicitaires aient tous l'intention de véhiculer précisément des schémas, mais sans s'en rendre compte, en fait, la mécanique de la publicité et de l'influence relaie ces schémas-là. Mm. Et voilà, moi, la seule chose que j'essaie de faire à travers les nouveaux récits pour l'instant, c'est de dire, ayons conscience du fait que les désirs qu'on a sont des fabrications. Au lieu de s'acharner à rendre possible ses désirs en rendant propre l'infrastructure qui les soutient. Donc, par exemple, si mon désir, c'est d'avoir ma voiture et d'être autonome pour aller le week-end en famille visiter des parcs en banlieue de je ne sais pas où, plutôt que de dire, bah, très bien, en fait, le parc, on va le rendre plus accessible en transport en commun, donc construire une nouvelle ligne et on va mettre des parkings relais pour des voitures électriques avec des bornes de recharge, on va dire, pourquoi tu as envie de faire ça? Alors, encore une fois, la réponse ne sera pas toujours... C'est Coluche qui disait, quand il y a un problème, appelez les services publics et ils vont vous expliquer comment vous en passer, en gros. Donc l'idée, ce n'est pas de dire que tous ces désirs sont infondés. C'est juste de commencer ce travail de prise de conscience, de, un peu comme pour tous les acteurs de cette société, potentiellement une grande partie de ce que l'on fait aujourd'hui ne répond à rien d'autre qu'un schéma culturel sur lequel on a la main.
J'ai l'impression qu'en fait, là, ce que tu es en train de proposer, c'est qu'on fasse une... immense psychanalyse à l'échelle nationale, globalement, pour questionner la source de nos désirs et de nos traumas.
Oui.
Non, mais ça me parle énormément et je trouve ça hyper intéressant, tout ce que tu partages, parce que je ne sais plus qui l'a dit, mais je l'ai entendu d'ailleurs plusieurs fois, mais dans plein de cours et de notions de sociologie, d'anthropologie. Finalement, la société elle-même, c'est une espèce d'hallucination collective. Mm. C'est un contrat qu'on a tous signé les uns avec les autres. On s'est dit, bon, bah, en fait, on va dire que notre réalité, c'est telle et telle histoire, c'est telle et telle norme, c'est tel et tel standard, c'est telle et telle idéaux de vie et de société. Et je te trouve assez sympa de dire que les pubards relaient sans savoir. Je pense qu'il y a quand même... Des génies et des cerveaux au début des années 1900, enfin, ou plutôt post-guerre pour relancer l'économie, qui ont contribué à créer des récits et qu'ensuite ils ont été relayés peut-être inconsciemment. Mais du coup, de se dire que l'idée de ces nouveaux récits, c'est tout simplement de prendre la place des récits actuels.
Oui, alors j'imagine peut-être. Que tu mentionnes Edouard Bernays là entre les lignes, non, c'est pas lui que tu pensais.
Potentiellement, sans savoir. Alors.
Potentiellement. effectivement, enfin ces techniques de manipulation de masse, pour être très honnête, donc, sont bien connues dans l'histoire. On s'en est servi pour notamment rendre le peuple américain favorable à l'entrée en guerre en 1917, alors que le président Wilson s'était fait élire sur un programme qui était l'opposé de ça. Donc on a, voilà, pour la première fois, en fait, théorisé ces techniques de manipulation, et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, c'est, je crois que c'est le neveu de Freud.
Oui, c'était ça, c'était lui.
C'est Edouard Bernays, et donc, en fait, il s'est vraiment directement...
Ou de Jung, de Carl Jung, peut-être.
Ouais, je ne sais plus, honnêtement. Bref. Là, je n'ai pas, voilà, j'ai pas retravaillé ça. mais d'ailleurs, enfin, j'en parle quand même dans mon bouquin, donc il faudrait que je sois un peu plus attaqué. Voilà, donc en fait, on l'a fait, le truc, c'est que là, c'était vraiment à l'échelle nationale, etc. Et qu'après, bah, ces techniques-là, forcément, ont été utilisées dans le secteur privé par Édouard Bernays en premier, donc pour l'industrie du tabac, notamment. Les femmes, par exemple, qui sont mises à fumer à cette époque-là, c'était vraiment aussi une fabrication. Mais je suis en train de me perdre. Donc, est-ce que tu pourrais me rappeler ta question?
Non, bien sûr, mais c'est passionnant et je te laissais continuer parce que j'ai aussi récemment lu un article sur le sujet et sur tout le travail qu'il avait fait pour, en effet, l'industrie du tabac. Il me semble aussi sur l'intégration et l'adoption nationale du concept de petit déjeuner.
Oui.
Qui est quand même assez délirant de se dire qu'avant il n'y avait pas de petit-déj, mais pour accompagner l'époque industrielle et l'effort du matin des ouvriers, on a instauré un repas.
Exactement, mais je me souviens plus.
Le jus d'orange aussi.
Il y avait le jus d'orange, il y avait le bacon et les œufs aussi. Et je crois que c'est l'industrie de la viande qui l'a poussé à.
Enfin, voilà,
qui l'a payé, disons, pour inventer ce concept-là.
Un homme sympathique, donc.
Un homme sympathique. Mais qui, je pense, en fait, à cette époque-là. N'était pas mal intentionné. Enfin, je pense qu'il a ouvert une boîte de Pandore et qu'il n'était pas... Bon, après, je suis peut-être trop tolérant, j'en sais rien.
Y a peut-être un parallèle à tracer avec la tech, finalement, et le côté un peu démiurge des founders qui vont être extrêmement concentrés sur leur vision. Un Elon Musk qui veut coloniser Mars pour donner un nouvel élan à l'humanité, plutôt que de regarder, en fait, les conséquences dans le présent et sur les classes sociales peut-être moins privilégiées que dans le temps de leurs actions, quoi.
Oui,
donc je pense que tu as un côté, je suis pas sûre que ce soit des gens qui soient complètement diaboliques et mal intentionnés, c'est simplement que leur regard est pas porté sur la réalité de leurs actions.
Oui, c'est intéressant, ils avaient pas... Oui, je sais pas. En fait, j'ai pas encore lu le livre de Propaganda d'Edward Bernays, donc qui explique en fait comment lui concevait ces choses-là.
Ça se trouve, en fait, il est complètement machiavélique.
Et alors, d'une part, ou alors à l'inverse, il était un peu comme ces savants fous qui peinent à. Enfin, qui sont même pas des miroges, mais ils sont juste tellement passionnés par la mécanique de leur sujet qu'ils en oublient des conséquences. Et voilà. Donc, je sais pas, en fait.
Certes, tu nous diras et on lira ton livre avec intérêt pour le savoir. Mais donc, oui, on s'est perdu dans la question, qui était finalement qu'aujourd'hui, tu questionnes la pertinence de ces anciens récits, finalement, tout en ouvrant la porte peut-être à des nouveaux récits, si je comprends bien.
C'est exactement ça. Et je réalise que, en fait, c'est beaucoup plus facile de critiquer des récits existants sur la base de leurs conséquences, notamment le récit des Trente Glorieuses, que d'imaginer des nouveaux. Et je me souviens d'une table ronde récemment avec Sandrine Roudot, qui dirige les éditions de La Mer Salée, je ne sais pas si ça te parle, et qui a notamment lancé une sorte de chronique annuelle qui s'appelle Les Utopiennes, où elle invite plein de gens d'horizons différents à se projeter dans 10 ans, 15 ans et de décrire un moment de leur vie. Et elle fait un travail vraiment chouette et qui est vraiment focalisé sur la projection positive dans ce fameux imaginaire qu'on peine à concevoir. Et c'est vrai que j'ai réalisé pendant cette table ronde, et je l'avais un peu déjà senti avant, que tous mes réflexes d'ingénieur de jeune homme diplômé me poussait à me focaliser sur le problème et à décrire comment le récit hyper-technologique n'est pas le bon, comment la transition telle qu'on la conçoit n'est pas la bonne, etc. Comme si, en fait, le câblage ingénieur était aujourd'hui plus efficace pour déconstruire ce que l'ingénierie avait construit depuis 2 siècles à peu près que pour imaginer la suite. Et c'est vrai que quand on regarde ces travaux qui sont pour l'instant, je trouve, des ébauches, mais qui sont en fait quasi les seuls. Enfin, voilà, bon, je pourrais citer d'autres noms, Jean-Pierre Gouy, etc. Mais ce travail de projection positive dans un avenir sobre, on mettra le mot qu'on veut, mais qui est moins axé sur la consommation matérielle, je le trouve très dur à faire. Et je pense qu'il y a un énorme travail de référencement pour pousser ces nouveaux récits. Et moi, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, il faut quand même que je le dise, avec Imagine 2050, donc qui est la société de production fondée par Magali Payen. Et c'est grâce à elle et avec toute l'équipe, avec Paloma Moritz, avec Emma Stocking, avec Laurent Esposito. Enfin bon, bref, je ne vais pas faire les remerciements, mais on est en fait une assez petite équipe, avec Yasmina aussi, à vraiment avoir un peu entamé ce sujet-là. Et c'est vraiment dur. En fait, c'est vraiment dur de se projeter dans un monde positif différent de celui-là. Et en fait, bien souvent, on arrive surtout à convaincre les gens à qui on s'adresse sur ce thème-là que c'est la direction à aller, plus en montrant en quoi le monde actuel, on n'est pas si heureux dedans que ça, en fait.
Ouais, mais c'est dur d'être toujours dans une... Je comprends que ce que tu dis, c'est que c'est dur d'être toujours dans une posture de négation plutôt que d'aller vers de l'affirmation de quelque chose... Et c'est vrai que même quand tu regardes un peu les nouveaux récits, finalement, aujourd'hui, ce qui prime, en tout cas dans les arts populaires, au cinéma, etc., c'est plutôt les dystopies que les utopies.
Ben oui.
Et qu'on a du mal à... Et alors ça, c'est encore un autre sujet, mais moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que tu vois déjà des entreprises qui contribuent à peut-être, plutôt que de taper sur l'existant, parce que ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup, je pense à des fondateurs de boîtes engagées ou à impact qui vont avoir tendance sur LinkedIn à se pourfendre de posts qui vont peut-être critiquer des boîtes moins vertueuses et tout, ce qui est très bien aussi, mais je vois moins de publications et de prises de parole d'entreprises ou d'entrepreneurs qui vont aller dans le sens de ce que tu dis, qui est d'offrir des alternatives qui soient un peu lumineuses, quoi.
Alors oui, il y en a beaucoup. Et encore une fois, il y a un travail de référencement à faire, de mise en avant, disons, de ces histoires-là qui sont pour l'instant assez singulières, anecdotiques dans le paysage. Quand on voit, par exemple, des newsletters de levée de fonds d'investissement, on voit des boîtes qui lèvent des centaines de millions. C'est rarement des boîtes très inspirantes sur le plan des récits. Même les green tech, les boîtes de santé, etc. J'ai plusieurs exemples. Un exemple assez ancien, en fait, c'est Pocheco, qui est une petite boîte industrielle du Nord qui fabrique des enveloppes en papier. L'exemple paraît tout petit comme ça, mais en fait, ça fait 20 ans qu'ils essayent de vraiment devenir complètement régénératifs. Donc, ils rentrent dedans, bon, c'est le terme en ce moment. Il y a 5 ans, j'aurais probablement dit transition écologique, mais voilà. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont progressivement rendu leur appareil industriel complètement propre, d'un point de vue notamment chimique, parce que dans les enveloppes en papier, il y a de la colle et des encres qui sont très sales. Ils ont fait des programmes de covoiturage assez poussés. Ils ont rendu le site complètement... ça héberge des oiseaux, en fait. C'est devenu le premier refuge pour oiseaux LPO du Nord. Donc, c'est vraiment un bouillon de biodiversité. Ils ont... débétoniser tout autour, planter plein d'arbres, enfin bref, ils sont allés très loin sous l'influence d'Emmanuel Druon, donc c'est pas des trucs complètement spectaculaires, ils ont pas été sur la lune, ça reste une boîte qui est là, bon, ils ont un peu moins de voitures, un peu plus de plantes, mais en fait, ils vont vraiment dans la bonne direction, et c'est un des sujets en fait avec les nouveaux récits, c'est que il faut préparer les gens à trouver une autre forme de spectaculaire, qui n'est pas c'est pas les fusées d'Elon Musk qu'on va voir de toute façon. Et en fait, moi, je dis ça parce que j'y suis, moi, très sensible à ces fusées. Je suis absolument passionné d'aviation. Et j'essaye justement de voir précisément comment déporter, c'est pas un mot très heureux, mais essayer de transposer, en fait, la fascination que je pourrais avoir pour ces machines-là sur autre chose. Et en fait, c'est assez difficile. Mais je me prends presque comme objet d'étude dans cette histoire.
Oui, tu t'observes.
Et après, des exemples d'entreprises plus récents et un peu plus, au citron, quoi, un peu plus pétillant, un peu plus... voilà. Il est très connu, c'est l'exemple de Sophie Robert-Vélu, voilà, d'Expanscience, donc la maison mère de Mustela. Elle a donc la direction de cette entreprise et elle a décidé de renoncer aux lingettes. Alors, quand on dit ça comme ça, on dit... Certains disent... mais on s'en fout, quoi, en fait. Mais en fait, si, c'est une pollution énorme. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est la démarche. Au lieu de dire... on va mettre de la R&D, on va faire des sacrifices sur nos bénéfices pour investir en recherche, pour faire en sorte que les lingettes soient plus propres, etc. Elle dit, ça fait 10 ans qu'on fait ça, on arrête. On arrête de s'imaginer que ça va encore être possible. On fait une croix dessus, vu les délais impartis pour faire notre transition, on décide d'y renoncer. D'ici 3 ans, effectivement, ils n'ont pas fait tout de suite net l'arrêt. Mais en fait, c'est vraiment une sorte de reverse engineering, quoi. Au lieu de dire, on va essayer de faire en sorte et puis on verra, là, elle dit, on arrête et on verra comment nous, on s'adapte à ce choix de renonciation. Ce qui est très puissant, ce qui est courageux. J'espère qu'ils vont le tenir, mais j'ai eu la chance de discuter plusieurs fois avec Sophie sur ce sujet. En fait, elle fait ça aussi pour secouer le panier du tissu économique français, pour dire, arrêtons de faire genre que ça va être possible de faire tout transiter. Et c'est d'autant plus ambitieux que les lingettes, c'est 20% de leur chiffre d'affaires, donc c'est pas du tout un truc anecdotique.
C'est hyper intéressant, mais j'allais te dire, moi j'ai Mustela en tête, donc je suis contente que tu aies amené le sujet.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est un peu une des entreprises les plus communément citées dans ce côté un peu nouveau modèle, modèle un peu plus vertueux peut-être.
Et il y en a, enfin après on pourrait en citer des tonnes, mais bon, voilà.
Tu en as sûrement plus que moi en tête, mais du coup, on sera preneur d'un petit line-up que je mettrai peut-être par écrit pour les auditeurs et les auditrices.
Mais oui, bah, si, en termes de sources, le rapport de Lumia ou de Profil sont des rapports qui font des listes en fait, de tas d'entreprises qui ont fait leur transition. Et il y a aussi ce livre-là, tout récent, qui est paru début 2024, L'entreprise hyperlocale. Je sais pas, je le montre comme s'il y avait des caméras devant
prends.
Nous. Mais,
je l'admire. Voilà. Très jolie couverture.
Et ça aussi, c'est un vivier d'exemples. Et encore une fois, il n'y a pas d'entreprise qui aurait tout fait bien, parfaitement, très rapidement, etc. C'est plus plein d'inspiration.
Ça me permet de rebondir parce que finalement, dans The Storyline, on explore un petit peu le futur du marketing, le futur des entreprises, des modèles économiques un peu plus vertueux. Et là, je vois sur le livre que tu viens de me tendre que le sous-titre, c'est « Réinventer les modèles économiques à partir des territoires ». Et c'est peut-être la dernière question que j'ai envie de te poser, parce que je la pose de plus en plus. Moi, j'ai déjà fini d'écrire un livre l'an dernier sur les communautés. Bravo. Et j'ai l'impression que ces nouveaux récits sont beaucoup plus inscrits. En tout cas, c'est un truc que je me suis que j'ai tenté d'avancer dans le livre. C'est que ces nouveaux récits, ils s'inscrivent peut-être dans une évolution hors de l'individualisme et de l'idéal de l'individu roi, et plus dans une approche très collective, communautaire de la part des entreprises.
Effectivement, ça fait partie des leviers les plus déroutants, je pense, pour les entreprises qui s'attendent à juste avoir des nouveaux types de tableurs Excel à remplir. voilà. C'est l'approche collaborative. Et puisqu'on parlait de Mustela et de Sophie Robert-Velu, il y a un exemple très intéressant à ce titre, c'est qu'ils ont essayé de faire du vrac de produits donc cosmétiques style Mustela en pharmacie. Et au départ, ils étaient tout seuls. Et en fait, pour les pharmacies, ça allait pas, parce que c'était juste un produit, donc elles le mettaient un peu en retrait, et ça marchait pas du tout. Et donc Sophie Robert-Velu a été contactée, l'essentiel de ses concurrents, voire même tous, en disant, il faudrait qu'on se rassemble dans cette logique de vrac en pharmacie, parce que c'était nouveau. Et certains ont accepté, pas tous, mais certains ont accepté. Et là, forcément, pour les pharmacies, c'était plus simple de mettre ce bloc, c'est une espèce de gros frigo, en avant, parce qu'il y avait beaucoup de produits dedans. Et là, ça a marché très bien, très fort, très vite. À tel point que d'ailleurs, Sophie Robert-Velu aime bien raconter cette histoire parce que les concurrents qui avaient refusé au départ l'ont rappelé en disant alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans l'histoire, etc.
Forcément.
Voilà, donc ça marche. Et effectivement, là, on voit une logique de coopération directe avec ses concurrents. Un autre exemple, qui est plus ancien, c'est Burtsorg, qui est donc cette entreprise. Qui est un peu à l'origine du livre « Réinventer les organisations » de Frédéric Laloux, qui est donc une grande entreprise de services d'infirmiers à domicile. Eh bien, au lieu de... Le fondateur, Joss de Bloch, je crois, il s'appelle. Au lieu de vraiment jouer la concurrence pure en mode « Voilà, c'est notre entreprise et l'idée, c'est de tuer le marché autour », il fait du conseil direct à ses concurrents. Parce que lui, en fait, ce qu'il explique dans le livre, Frédéric Laloux, c'est qu'ils essayent de... Ils ont une raison d'être, leur entreprise. Et en fait, la raison d'être est au-dessus de l'entreprise. À tel point que l'entreprise peut disparaître, la raison d'être, ils vont toujours essayer de la pousser différemment. Et là, on voit que, en fait, cette raison d'être, c'est juste un peu un cœur d'écosystème. Et que l'entreprise est la première à le porter. Voilà, c'est elle qui a pondu cette raison d'être. Mais après, s'il faut quelques associations autour, une organisation parapublique ou autre, peu importe, l'objectif premier du fondateur de cette boîte qui a fait émerger cette raison d'être, c'est qu'elle soit servie. D'où la coopération directe avec les concurrents, le conseil aux concurrents pour que ça émerge. Et j'ai un dernier exemple, mais je ne sais pas
si... J'adore. Si, à fond, ouais. Allez-y.
C'est l'Amazuna. Alors, le nom de sa fondatrice m'échappe, mais c'est une boîte aussi de cosmétiques solides bio. Okay. Beaucoup de cases sont cochées là. Et en fait, elle a, dès le départ, fixé une limite à la taille de son entreprise. Au lieu de se dire, j'ai un concept qui est très propre, très durable, il faut qu'il remplace tout le marché, elle a dit, moi, je m'arrêterai à 150 employés, je ne veux pas aller plus loin. Et forcément, au bout d'un moment, on se pose la question. Voilà, elle a atteint ses 150 salariés parce que ça marchait très bien, mais elle ne voulait pas déroger à sa règle initiale d'être une, en fait une petite entreprise. Enfin, une moyenne, je ne sais plus dans quel cas ça rentre, mais voilà. Mm-hmm. Mais pour quand même que l'idée se diffuse et que le marché se transforme en profondeur, elle envoie des équipes de... elle ne précise pas, mais je crois que c'est entre 2 et 5 personnes, dans d'autres pays, parfois à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Mais au lieu de multiplier par 4 ces entreprises en France et d'exporter des produits, l'objectif, c'est de créer la concurrence locale. Donc, ils émergent, ils font en sorte d'être très ouverts, c'est quasi de l'open source, hein, enfin sur le, voilà. Et dès qu'ils voient émerger des concepts très similaires, ils s'en vont. Comme ça, l'entreprise peut rester à 150 personnes et rester à taille humaine, mais l'idée qui est bonne se diffuse.
C'est génial comme exemple.
Oui, c'est absolument génial, je trouve. Oui.
Ça remet en question la notion de compétitivité, finalement, et celle de collaboration. Ça me fait penser au discours, au TED Talk aussi, de Julia Fort, la co-fondatrice de Loom.
Oui, j'ai parlé d'elle hier sur LinkedIn, et effectivement, je trouve qu'elle est brillante de ce point de vue-là, et notamment d'ailleurs sur la compétitivité.
Oui, la taille des entreprises, la remise en question de l'objectif de croissance perpétuelle. Et elle a une image que j'aime beaucoup, qui est celle d'un mycélium d'entreprise. Non, d'une forêt d'entreprise. Mycélium, c'était plutôt... Moi, j'aime bien les champignons, mais...
Oui, bah après, sous les forêts, il y a des mycéliums qui connaissent les arbres, donc oui, c'est...
Mais du coup, d'une forêt d'entreprise plus résiliente, plutôt que d'un acteur qui essaye d'écraser et d'étouffer tout le reste du marché.
Mmh. Oui. Enfin,
un boulot, quoi. On n'aime pas trop les bouleaux. Les bouleaux, ils sont pas sympas. Je crois qu'ils étouffent le reste des forêts.
Oui, parce qu'ils poussent très vite, je crois me souvenir. Je me souviens qu'il y avait une analogie entre le nom de l'arbre et un peu ce qu'il faisait. Et je crois qu'il pousse très très vite et puis il meurt très vite parce qu'il s'est épuisé. C'est le burn-out des arbres un peu.
Un ancien récit.
Voilà, un vieux récit, exactement.
Ok, bah ça fait, je vois que je le retourne. Je te prendrai peut-être pas beaucoup plus de temps, mais... Peut-être dernière question, du coup, niveau livre, comment ça avance là, pour quand est-ce qu'on peut s'attendre à
Alors,
te lire
Le premier bouquin sur les voies d'engagement qui vise à aider à se projeter en fait, dans des façons de s'engager qui ne sont pas que l'activisme en mode coller sa main sur le périph. C'est extrêmement utile de faire ça. Il faut absolument que d'autres générations le fassent et que ça continue. Pareil sur l'activisme dans les musées, etc. Vraiment, j'insiste, c'est pas du tout un truc pour critiquer ça. Mais je pense que ça tétanise beaucoup de jeunes, je le vois dans des conférences étudiantes que je fais, qui peinent à se projeter là-dedans, parce que physiquement, ils ont peur, parce que ils se sentent pas en fait, de faire ça. Et là, l'objectif du livre, c'est de montrer qu'on a besoin d'un peu tout le monde.
Mmh.
On a besoin de gens qui vont faire des prototypes de nouvelles façons de s'habiller, de faire de l'agriculture ou autre. On a besoin de gens qui sont des insiders, on a besoin de gens qui font la révolution réellement. On a besoin de plus d'analyseurs, de gens qui sont effectivement derrière un ordinateur sur leur bureau, mais qui en fait vont produire de la data qui sera ensuite utile pour... Et en fait, l'idée, c'est de planifier... Enfin, de... Non, de, pas de planifier, mais de montrer cet écosystème d'engagement, de montrer que toutes ces personnes ont besoin des autres et que c'est en comprenant cette... en fait, on revient au mycélium un peu. C'est pas parce que vous passez pas à la télé et que vous êtes pas dehors en train de faire de l'activisme dans la boue tous les jours que vous êtes pas utile. C'est peut-être un message tarte à la crème, mais en fait, je pense que c'est vraiment important de le mettre à plat une bonne fois pour toutes. Ça, c'est janvier 2025. Voilà, du coup, je réponds très beaucoup bien. Trop longuement à ta question.
Non, mais c'est un très bon teaser.
Voilà. Et l'autre livre, je ne sais pas quand, ce sera probablement quelques mois plus tard. Et voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant.
Très bien, non, mais le rendez-vous est pris, on en reparlera à ce moment-là alors.
Ok, super.
Merci, Com.
Merci à toi, Naomi.
Alors, qu'avez-vous pensé du témoignage de Com? Je trouve passionnante la notion de nouveau récit, même si elle reste parfois un peu floue, car elle me paraît être une porte ouverte vers la possibilité pour les entreprises et les communicants de contribuer activement à déconstruire les schémas négatifs et les croyances limitantes imposées par la société de consommation. Le tout sans forcément basculer dans l'anarchie. Je vous laisse vous inspirer des exemples cités par Com et vous dis à très vite dans le podcast.